Waouh, mais quel bonheur d'être ici, si vous saviez. Alors moi, je n'ai pas eu le privilège de vivre des bénédictions ici, mais je suis vraiment à la maison, mais vraiment à la maison. Et j'aimerais vraiment encourager le groupe de louanges. Vous êtes magnifiques. Continuez. Ne lâchez rien. Continuez. C'est un bonheur de venir avec vous, de monter près du trône de Dieu. Juste du bonheur. Continuez. Waouh. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est pas trop tard. J'ai cette parole qui me tourne dans la tête. C'est pas trop tard. Je sais pas qui c'est, puis j'ai pas besoin de savoir. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est pas trop tard. Oui, ta vie a été détruite. Oui. Tu as l'impression d'avoir subi plus d'injustice que les autres. Oui, tu as l'impression que Dieu a parfois été injuste. Tu as douté. Mais ce matin, ton Dieu est là. Ce matin, Dieu va percuter ton cœur. Et alors que je vais partager ce que Dieu a mis sur mon cœur, je crois que Dieu va percuter ton propre cœur. Et tu vas comme entendre retentir en toi un nouvel appel pour le servir. Rappelez-vous, quand Jésus a appelé ses 12 disciples, excusez-moi, à certains égards, c'était un peu des bras cassés. En tout cas, c'était pas des gens de l'élite, c'était pas des gens de la haute. C'était des gens tout simples pour la plupart. Ou des, comme Matthieu, un petit peu des voleurs, risqueurs. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait avec ces gens? Rappelez-vous du roi David, quand il était poursuivi, persécuté par Saül, il a attiré à lui des gens qui n'étaient pas recommandables. Mais qu'est-ce que David a fait avec ces gens? Il en a fait ses meilleurs guerriers. À partir de ces gens fragiles, Dieu a fait des hommes forts pour combattre au nom de l'Éternel. N'aie pas peur d'être vulnérable ce matin. Moi, j'aime être vulnérable. Pas forcément devant les gens malveillants, mais devant mon Dieu, j'aime être vulnérable. J'aime m'approcher de lui. Je suis ému. J'aime m'approcher de Dieu juste comme je suis. On peut abattre. Oui, dans la société, il y a des gens malveillants, il y a des méchants. Et là, il faut monter la garde. Là, on a le droit de se protéger. Là, on a le droit de dire non. Mais quand on vient devant l'Éternel, il nous aime tellement. Oh, j'aimerais vous encourager, quand vous venez ici à sa rencontre, baissez les masques, s'il vous plaît. Laissez tomber les lourdeurs. Ouvrez-vous à lui. Quelle honte y aurait-il à vivre ici une délivrance à 30, 40, 60 ou 70 ans? Peu importe. Hier, on avait un temps de louange au siège à la Jalouse. Et une personne qui est dans le conseil, à un moment donné, j'ai reçu une parole de connaissance. Ça l'a touchée. Elle s'est avancée. On a prié pour elle. J'ai dit, quelle humilité. Il n'y a pas d'élitisme ici, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'élitisme. On met à mal le qu'en dira-t-on. Je vais être un peu cru, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est suivre Jésus. Mais j'ai vu dans ce lieu une église de passionnés. Il y a une passion qui est là. J'ai senti une passion. Et je dois vous avertir, c'est bientôt trop petit ici. C'est bientôt trop petit. Je voyais dans mon esprit des gens arriver. Il va falloir trouver des solutions, mais il y en a toujours. Gloire à Dieu. Ça va pour vous? Oui. C'est bien. Je suis parti dans un drôle de message. Je ne pensais pas partir là. Oh, rassurez-vous, hein, je cite la Bible. Hein. Mais je suis parti sur quelque chose de nouveau. J'ai moi-même découvert des choses. Le thème, c'est que t'importe? Que t'importe? Toi, suis-moi. Alors, c'est Jésus qui parle. Hein. Toi, suis-moi. Et vous savez, quand Jésus nous invite à lui consacrer nos vies, c'est pour le suivre. Hello, c'est pour le suivre. Et je ne sais pas si vous savez, même si Jésus, c'est une pierre d'angle, ceux qui connaissent les vieilles maisons, les aînés, ils ont peut-être vu dans les maisons, les anciennes maisons, à l'angle, il y a une grosse pierre plate qui a été très bien choisie. Et tout est construit sur cette pierre. Et Jésus est cette pierre d'angle. À la fois Jésus, il est cette pierre d'angle ou ce rocher sur lequel on peut s'établir et avancer. Mais Jésus est en mouvement. Vous savez pourquoi Jésus est en mouvement? Parce qu'il bâtit. Jésus a dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Mais vous savez, quand on bâtit, on est en mouvement. On prend une brique, on la met, etc. On se passe les briques, on est en mouvement. Et je prie que de plus en plus, sous l'action du Saint-Esprit, sous la pertinence de la parole de Dieu, vous soyez en mouvement. En mouvement ici, mais en mouvement vers l'extérieur. Que vous n'ayez plus honte de partager l'évangile. Vous savez, plus on est passionné de Jésus, plus on vient des gens dangereux. Parce qu'on partage l'évangile, pas parce qu'on doit. Ça vient tout seul. On aime les gens et tout à coup, là, il y a une opportunité. Là, hein, on est ce sel, cette saveur. Waouh ! J'aime parler de Jésus. Mais des fois, juste, petit coup. Voilà. Donc Jésus, quand tu nous appelles, on appelle à le suivre, on lui est consacré. Et j'aimerais dire, on passe par la repentance. Cette dimension de repentance, de baptême d'eau. Et là aussi, si parmi vous, il y a quelqu'un qui serait encore pas baptisé, allez creuser dans la parole. Voyez de quoi il s'agit. Repentance, baptême d'eau. Cette dimension de foi et d'amour, et puis ce baptême du Saint-Esprit, qui n'est pas juste une petite expérience au passage. Moi, je dirais un premier baptême de l'Esprit. Une immersion. Mais ce matin, on était baptisé du Saint-Esprit, non? Ce matin-là, moi, j'étais baptisé, j'étais renouvelé, alléluia. Et puis, mais alors, il y a un mais. Vous savez quoi? Nos vies ne sont plus à nous. Vous avez conscience de ça? Nos vies ne nous appartiennent plus. Waouh! Et ça, pour l'intégrer et le vivre vraiment, ma foi, chez moi, ça a mis du temps. J'ai un trancheux, j'ai un caractère au départ. Hein, j'ai du caractère, ma femme. Et j'ai résisté longtemps. Et j'aimerais vous dire, tant mieux si pour vous ça s'est passé en 2, 3, 4 mois, mais moi j'ai longtemps résisté. Je l'aimais fort, mais je lui résistais. Je lui résistais. Et il a fallu que Dieu brise mon orgueil. Je venais d'une famille, on était une bande d'orgueilleux. C'est tout. À toujours critiquer les autres. Il a fallu que Dieu vienne briser mon orgueil, que je me prenne des murs. Il a fallu que Dieu casse ma rébellion face à l'autorité. Mais ça, c'est un sujet plus compliqué. Parce que on peut avoir peur de l'autorité. Si on était abusé, on ne veut pas de l'autorité. On s'en protège même si elle est bonne. On dit non, non, l'autre, non. J'aime mieux me débrouiller tout seul. Moi, j'ai aussi connu divers abus dans ma famille. Donc, il y a la guérison. Il y a tout un travail. Mais ouais, une fois qu'on peut pleinement accepter l'autorité de Dieu, elle protège. Des fois, elle corrige. Mais elle le fait bien. Avec grâce. Avec vérité. Il n'y a pas l'once d'une condamnation. Est-ce qu'on veut être totalement libéré de l'hédonisme, de l'individualisme, de l'égoïsme, et dire « Jésus, ma vie est à toi, fais-en ce que tu veux !» Même si c'est difficile, parfois. C'est pas grave. Quand on a cette intimité avec Jésus, les vagues de l'opposition, on les traverse comme le surfeur. Vous avez déjà vu le surfeur? Il joue dans la vague. La vague ne les atteint pas, il traverse la vague, ça s'apprend. Quand on est proche de Jésus, on n'a plus peur de la persécution. On n'a plus peur de l'opposition. On veut une seule chose, rester proche de lui et lui obéir. Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire, c'est d'accomplir ce que Dieu veut pour ma vie et d'aller dans cela jusqu'au bout. Et Jésus l'a fait, hein. Ça s'est terminé par du compliqué. Ma nourriture, la première nourriture de Jésus, c'était d'accomplir ce pourquoi il avait été appelé. Ça le nourrissait. Et j'aimerais vous encourager ce matin. Si vous êtes dans la volonté de Dieu, vous attirez l'onction. L'onction vient sur vous. Parce que la parole de Dieu nous dit que l'Esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Cherchez à plaire à Dieu. Cherchez à lui obéir. Et l'onction vient naturellement. Et elle vous équipe, elle vous donne de l'assurance, elle vous guérit, elle vous libère comme ça s'est si bien passé pour ma femme. Vous savez, quand on s'est mariés, on était des bras cassés. On était les deux fragiles. Mais il a plu à Dieu de nous parler l'un à l'un et à l'autre et de dire, je vous veux ensemble. C'était clair. Et à partir de là, hein, chouchou, progressivement, on s'est affermi, on s'est consolidé. Et aujourd'hui, on est des vrais vis-à-vis. Et quand Arlette, quand il y a quelque chose qui ne va pas en moi, elle me le dit. Et je dis, waouh, attention Philippe, on est une équipe, hein, chou. Mais il a fallu l'action de Dieu en profondeur. Et quand vous êtes obéissant, l'action vient et ça déborde, ça impacte autour de vous. Sans que vous vous en rendiez compte. Et là, vous portez du fruit. Amen. Et là, j'arrive sur un des points centrales de mon message. Jean 21, je vous passe les versets. Jean 21, Jésus va dire à Pierre, que t'importe, toi, suis-moi. Mais il lui avait déjà dit ça une première fois. Hein? Et il va lui dire quelque chose Vous savez, Jésus a prophétisé sur Pierre des choses difficiles à venir. Et quand Jésus prophétise sur nos vies, c'est du vrai, hein? Et parfois, il peut nous avertir de choses difficiles, qu'on puisse se préparer. Et il lui dit, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture. Je veux quand même dire, c'est verset 21, verset 22. Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture, tu allais où tu voulais. Puis après, Pierre, il a rencontré Jésus, hein? Le coq a chanté, tralala. Puis un peu plus tard, il lui dit, mais quand tu seras vieux, c'est quelqu'un d'autre qui va te mettre ta ceinture et qui te conduira là où tu ne veux pas aller. Waouh! Pas évident, hein? Mais, il y a un mais. Mais ta vie donnera gloire à Dieu. Et j'ai l'impression que Pierre, là, il est tout sauf rassuré. Et il commence de regarder autour de lui. Il y a son ami Jean, hein, Jésus, il a les trois intimes, Pierre, Jacques et Jean, mais il regarde du côté de Jean, puis il dit, ouais, Seigneur, c'est pas facile. Il a compris qu'il y aurait de l'opposition, de la persécution, il est ébranlé. Puis pour se rassurer, il regarde un peu autour, puis il dit, ouais, puis après il va vers Jésus, puis il dit, ouais, mais Jésus, puis les autres alors, Jean. Puis Jésus lui dit, mais écoute, hein, si je décide de garder Jean en vie jusqu'à ce que je revienne, donc... Son retour, hein, après sa mort, sa résurrection, il n'est encore pas venu. C'est mon problème, c'est mes affaires. Mais autre, en français courant, il va lui dire, qu'est-ce que ça peut te faire, ce qui se passe dans la vie des autres? Ne regarde pas ça. Continue de me suivre. Même si tu dois souffrir, tu vas donner gloire à Dieu. Est-ce qu'on est prêt à souffrir pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on est prêt à être humilié pour que Jésus soit glorifié? Je vous laisse la question. Ce n'est pas une question facile. Est-ce qu'on est vraiment prêt à aller là où Dieu veut qu'on aille, même si ça ne nous plaît pas, même si on ne veut pas? Jésus, il a... Ça a été le premier. Vous savez, Jésus, il est très légitime, hein? Il a tous les droits de nous appeler à le suivre. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a répondu, lui, à l'appel de suivre quelqu'un. Vous savez pourquoi Jésus est venu sur terre? Est-ce qu'il est venu de lui-même? Non? C'est qui lui a demandé de venir? Son Père. Mais il est venu. Vous croyez que c'est intéressant pour Jésus de quitter la gloire? De venir avec une bande d'amochés comme nous? Incrédule, mauvais, religieux, blabla. Mais il est venu. Et là, il faut que j'avance. Hein. Je ne vais pas tout dire. Il a dit, Hébreux 10, verset 7, « Me voici, je viens faire ce que tu veux. » C'est ce qui est écrit à mon sujet dans les livres saints. Et il dit ensuite, le Christ dit, « Me voici, je viens faire ce que tu veux. » Le Christ supprime les anciens sacrifices et les remplace par le sien. Moi, j'aime cette croix-là. Waouh! J'aime venir là. Je fais pas le malin. Quand vous êtes vers Jésus, au pied de la croix, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais vous êtes au bénéfice de la puissance qui émane de la croix. Un homme a livré son sang. Un homme s'est donné. Et puis, je vais vous partager quelques réalités terrestres. Arlette, moi, on n'a pas choisi nos parents, vous non plus. Certains ont eu des belles familles, gloire à Dieu. Mais je sais qu'ici, il y a des gens qui en ont bavé dans leur famille. Je sais, vous n'avez pas eu des bons parents. Vous êtes entré dans la vie d'adulte cassé, sans repère, sans identité propre. Mais je vais vous dire, Jésus a passé par là. Ce n'est pas des textes qu'on prend souvent. Mais dans Matthieu, on va commencer par le début, hein. C'est pas rigolo du tout. Joseph, Marie lui dit, écoute, j'ai été visité par un ange, j'ai dit qu'il me soit fait selon sa volonté. Je suis désolé, Joseph, je suis enceinte. Mais c'est pas un autre homme, s'il te plaît. C'est le Saint-Esprit qui est venu me visiter. Mais Joseph, il gobe pas. Joseph, il n'arrive pas à comprendre. Et qu'est-ce que le texte dit? Le texte dit, ben, il voulait pas la diffamer, mais il a décidé de rompre un secret. Vous croyez que c'était rigolo pour Marie? Que ta volonté soit faite pour moi, qu'il en soit fait, moi. C'est magnifique cette ouverture. Mais qu'est-ce qu'elle n'en a pas bavé après, même avec son fiancé. Il veut la renvoyer. Heureusement que Dieu envoie un ange. Mais à l'intérieur d'elle, il y a la vie déjà. Jésus, il est là. Ce choc émotionnel de Marie, vous ne croyez pas qu'il en a pris un coup, Jésus? Moi, je crois. Puis après, Jésus, il est à peine là. Il découvre la vie sur terre, la vie en couleur sur terre. Il faut fuir en Égypte. Il faut fuir parce que Hérode veut tuer Jésus. Ni plus ni moins. Il fuit. Il y a juste un cabosson pour porter les bagages. Jésus est certainement sur cette âne. Des heures et des heures et des heures, de jour comme de nuit. L'exil. Jésus a connu l'exil. Je peux te demander un mouchoir, chouchou, s'il te plaît. Et bref. Mais ce n'est pas terminé. Matthieu 2, 22. L'ange dit à Joseph, lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et retourne dans le pays. Retourne dans le pays. En effet, écoutez bien, en effet, ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. C'est clair ou bien? Dieu. Et l'enfant sont morts, sont tous morts. Ok, Joseph obéit, il remonte. Mais manque de peau, Joseph a peur tout à coup. Il apprend qu'il y a un nouveau roi, je ne sais plus son nom, toi tu pourrais peut-être le citer. Il y a un nouveau roi, mais un nom un peu derrière la maison. Il est saisi, il a peur. Mais vous savez pourquoi il a peur? Il est traumatisé, le pauvre Joseph. Ça a déjà été compliqué avec sa fiancée, de comprendre ce qui se passait. Il cherche l'hôtel, il ne trouve pas. Il trouve un petit bout d'étable, là. Moi, je suis paysan de métier. J'aime les étables, mais ce n'est pas le meilleur lieu, quand même. Ce Joseph, il est retourné comme dans une essoreuse. Et il a peur. Il est sur le chemin du retour, il obéit, mais il a peur de retourner en Judée. Et Dieu lui parle, puis lui dit, ben, Dieu prend soin, hein? Dieu prend soin des gens vulnérables, fragiles. Il l'envoie en Galilée. Mais Joseph est habité par la peur. Et Jésus, il est là, il est petit, il est là. Donc c'est pas la vie de famille, c'est surtout pas la vie de famille idéale. Mais attendez, une autre histoire. J'aime beaucoup cette histoire. Je vous la raconte, il faut que je fasse court. C'est Luc 2, 48. Ils viennent à Jérusalem, ils vivent ce qu'ils ont à vivre devant Dieu. Et puis Joseph a 12 ans, ils remontent, ils repartent. Puis il y a beaucoup de monde, ils sont, imaginez-vous, des centaines de personnes comme ça. Puis les familles étaient nombreuses à l'époque. Alors les parents, ils repartent, puis ils disent, oh Jésus, ben, il n'a pas l'air d'être là, mais il est un peu, il est derrière, il est avec la famille élargie, les cousins, les cousines, on ne peut pas s'inquiéter. Ils vont un bout, puis ils disent, ouais, mais quand même. Ils commencent de chercher. 3 jours. Il y a des parents ici. Est-ce que les parents pourraient lever la main, s'il vous plaît, que je puisse me faire une idée? Ah ouais, il y a quand même, c'est magnifique, magnifique. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos enfants. Et ils le cherchent, et ça les agace. Et c'est normal. Il dit, mais il est où? Il le trouve. Mais ça va ou bien, Jésus? Bon, je paraphrase un peu, hein, mais c'est quand même comme ça que ça s'est passé. Ça va? Tu ne nous dis pas, tu restes là à Jérusalem, on te cherche, on est plein de soucis. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis Jésus qui leur dit, ben, je ne vois pas vraiment où est le problème. Mais écoutez, j'ai 12 ans. Alors, on est dans la culture juive, hein, s'il vous plaît. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas que vos enfants à 12 ans, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, puis qu'ils n'avez plus rien à leur dire, s'il vous plaît. Mais on est dans la culture juive, 12 ans, c'est la bar mitzvah, c'est ça? Hein? En tout cas, l'enfant, il entre dans une certaine indépendance. C'est ça, on peut dire ça? Et puis, il leur dit, mais je ne vois pas le problème. Il faut juste que je m'occupe des affaires de mon père. Oui, mais quel père? C'est moi, Joseph, ton père? Mais c'est qui ton père, ton vrai père? Donc ça... Et les parents, il est écrit qu'ils n'ont rien compris. Hein. Mais il est dit après, Jésus continua d'obéir à ses parents. Il aurait été soumis, mais pas pour tout. Parce que c'est quand même le Fils de Dieu. L'appel monte, comme la sève dans les arbres. Et il commence à s'intéresser aux affaires de Dieu et se laisser instruire. Mais plus loin, je ne vais pas vous citer tous les versets, mais il y aura encore 3 versets. On voit que Jésus est malmené dans sa famille. Je vais peut-être prendre ce qui me paraît le plus coriace. Jésus, il vient à la maison, il est loin et il attire les gens. Bien une foule, ils ont des besoins. Évidemment, Jésus guérit, chasse les démons, enseigne. Les gens, ils sont super enthousiasmés, super passionnés. Mais ça dérange. Dans la famille, on ne sait pas vraiment qui est Jésus. Ils sentent bien que ce n'est pas vraiment leur frère. Puis quand même, puis tout à coup là, il fait des miracles là au milieu. Ça, je suis désolé, mais dans les Écritures, on voit que ça pose problème aux parents et aux frères. Et il revient à la maison. La Bible dit que Jésus et ses disciples, ils n'ont même pas le temps de manger. Le ministère, ça peut prendre des forces. Hein. Ils n'ont même pas le temps de manger. Ils prient, ils imposent les mains. Et les gens de la famille de Jésus, alors, père-mère, peut-être la famille proche, élargie, ils viennent, ils apprennent ce qui se passe, ils viennent, ils prennent le temps de venir. Mais vous savez pourquoi ils prennent le temps de venir? Ils prennent le temps de venir pour le saisir, puis le sortir de là. C'est la Bible qui dit ça, pour venir le saisir. Et ils disent, Jésus a perdu la raison. Mais il y a une autre traduction qui dit, il est devenu fou. Moi, ça me plaît, ça. Il a pété un plomb. On ne le reconnaît plus. Il est déraisonnable. Non, mais face à la loi de Moïse, face à l'Ancien Testament, il vient tout ça bouleverser, il vient accomplir ça, mais on est dépassé. Il est fou. Il faut qu'on le sorte de là, il faut qu'on le protège. Sauf que Jésus, il est bien installé dans ses bases. Puis il dit, c'est exclu. Je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu et vous n'allez pas me déloger d'ici. Même les frères de Jésus, dans Jean 7, ils vont lui dire, écoute, ils sont comme fatigués que Jésus accomplit des miracles de la part de Dieu, des guérisons. Et puis ils vont lui dire, je paraphrase, c'est dans Jean 7, ils vont lui dire, écoute Jésus, c'est peut-être mieux que tu... On respecte ce que tu fais, c'est bien, mais il faut que tu ailles te faire connaître un peu plus loin. On n'a pas besoin que tu sois trop longtemps avec nous. Va un peu plus loin. Et il est dit au verset 5, en effet, même les frères de Jésus ne croient pas en lui. Et je vais vous dire quelque chose. Il faut absolument que Jésus passe avant nos familles. Hello. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un infidèle. Oui, c'est vrai. Et tout ce qu'on peut honorer nos enfants, honorer ses parents, ce qui est possible. Pour Arlette, il y a eu tout un temps, la seule manière qu'elle a eu d'honorer sa maman, c'était de la bénir dans la prière. C'est tout. Mais elle l'a fait. Mais il faut que Jésus passe avant. Il faut que Jésus soit au centre de nos vies. Vous êtes d'accord avec ça? Et on sera une bénédiction pour nos familles. Évidemment. Puis un dernier texte dans... C'est toujours dans Jean 7, un peu plus long. Non, dans Luc 8. Luc 8, verset 19. De nouveau, la mère et les frères de Jésus viennent le voir. C'est qu'eux, ils arrivent toujours au mauvais moment. Ils arrivent toujours quand il est en train d'enseigner, d'exercer le ministère. À se demander par qui ils étaient envoyés. Et ta mère et tes frères sont là, dehors, ils veulent te voir. Mais il y a la foule, il y a tellement de foule, ils ne peuvent pas passer. Puis Jésus, vous savez ce qu'il leur répond? C'est pas très pastoral, hein? Ma mère et mes frères, ce sont les gens qui écoutent la parole de Dieu et qui lui obéissent. Et flan. Mais si on réfléchit bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire en tout cas que dans cet événement-là, la mère, Marie et les frères de Jésus, ils sont à côté, hein. Ils s'opposent à la volonté de Dieu. Donc Jésus, il est obligé de prendre ses distances et dire, attendez, on parlera après, je veux bien vous écouter, mais pour le moment, j'enseigne, je m'occupe des affaires de mon Père. Puis après Jésus, je reviens un peu en arrière. Jésus, à peine il a commencé d'exercer le ministère, déjà on voulait sa peau. Il voulait le jeter en bas de colline. Et puis j'arrive au cœur de ce qui a précédé la croix. Vous savez quoi? Il n'y a pas que Pierre qui est allé où il ne voulait pas. Jésus aussi. Par trois fois. Matthieu 26, à partir du verset 39. Il se jette à terre, le front contre le sol, en disant, mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas comme je veux, mais comme tu veux. Jésus est en chemin, il essaye de s'aligner à la volonté de Dieu, mais c'est un combat. Une deuxième fois, Jésus va plus loin. Mon Père, si tu ne peux pas éloigner cette coupe de moi, si je dois la boire, fais que j'obéisse. Fais que j'obéisse à ta volonté. Il y a un processus qui est engagé. Ça va déjà un tout petit peu mieux. Et une troisième fois, il s'éloigne des disciples et il prie en disant les mêmes paroles. J'aimerais dire que Jésus était tenté comme dans toutes choses. J'aimerais dire qu'à Gethsémané, la tentation de fuir, est-ce que vous avez déjà connu la tentation de fuir? Comme Jonas? Non. Seigneur, non. Prends-en un autre. La tentation de fuir de Jésus était à son paroxysme. C'est là que Jésus a été tenté le plus fort. C'est là que Jésus a été testé le plus fort. Mais il connaissait son Père. Et il savait que Dieu avait le pouvoir de le ressusciter des morts. Et Dieu l'a fait. Conclusion. Je ne sais pas quelle heure il est, mais je ne pense pas avoir été trop long. Je crois que ça va. Non, je suis un peu hors du temps. Ah, merci, c'est super. Même un frère qui me tient au courant. Magnifique. J'aime ça. Tu vois, c'est ça le corps. C'est ça. Ça me plaît. Merci. Il supplie son Père. Tout au fond de lui, il veut obéir, Jésus, c'est clair. Avant même de venir sur terre, il savait que ça finirait comme ça. Mais là, les grumeaux de sang, les vaisseaux superficiels qui éclatent, tellement il est dans l'angoisse, tellement, tout à coup, il dit, mais Seigneur, tu m'as abandonné. Pourquoi tu m'abandonnes, Seigneur? Tu n'es plus là. Ça commence de sentir mauvais, le soufre, le feu éternel. La conséquence des péchés, tout s'abat sur lui, toutes les malédictions liées au péché, complètement séparées de Dieu. Je vous encourage à prendre Dieu au sérieux ce matin. Face à un tel sacrifice, je suis désolé, on ne peut pas accepter de mener une vie chrétienne stérile. On ne peut pas accepter de vivre dans le compromis, durablement. On ne peut pas accepter, en connaissance de qui est Dieu, de qui est Jésus, et de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Arrêtons de jouer au polichinelle, arrêtons de, comme je l'ai fait aussi, je ne suis pas en train de vous accuser. Moi, j'ai aussi fait des drôles de... Je vous dis, il m'a fallu du temps, hein? Puis maintenant, je veille. J'ai même été en colère contre Dieu. J'ai même injurié Dieu. Après 10 ans de vie chrétienne, vous vous rendez compte? Donc je ne suis pas en train de vous juger quoi que ce soit. Cette parole, elle est d'abord pour moi. Mais prenons Dieu au sérieux. Moi, je crois qu'il y a un réveil qui vient. On parle de tout temps du réveil dans l'église évangélique. Mais je crois réellement qu'il y a les prémices de quelque chose dans cette région. Je crois. Et moi, je veux vivre ça. Je veux être dans ce processus. J'en ai assez de ma médiocrité. J'en ai assez de toutes les fois où j'étais dans le compromis, où j'ai continué de garder mon petit péché mignon. C'est tellement facile, hein? On accuse ceux qu'on voit pécher, on les juge, puis nous on choisit un petit péché caché. Ça va? Ben, je vais terminer comme ça. Je pense que pour plusieurs, ce matin, Jésus il vous appelle à nouveau. Il vous dit à nouveau, je dis des noms comme ça, Marguerite, Antoine, Jean, Octave, Arthur, bon, c'est des vieux prénoms ça, aide-moi Arlette, Mélanie, Amélie, Jonathan, Isaac, j'espère que je touche juste une personne ou deux, Jean, Philippe, Jacques, il vous dit, toi, suis-moi, ne détourne ton regard ni à gauche, ni à droite, ne te laisse pas faire par les réseaux sociaux, j'ai rien contre les réseaux sociaux, mais des fois ça devient... Une demi-heure, une heure et demie. Oh, il faut que j'aille me coucher. Dieu vous dit, te dit, suis-moi. j'ai une nouvelle étape pour toi. Je vais t'emmener plus loin. Je vais te donner du fruit dans ta vie. Suis-moi, approche-toi de moi, colle à moi, comme les disciples ont collé à moi. Ne te détourne ni à droite ni à gauche. Et s'il y a encore du péché dans ta vie, viens à la lumière. Il n'y a pas de honte. Ce que Jésus ne peut pas voir, je suis désolé, ce n'est pas les pécheurs repentants, ceux-là. Oh, Jésus, les pécheurs repentants, il les accueille, il les aime, il les bénit. Ce que Jésus ne peut pas voir, c'est les hypocrites. Ouais, un petit peu de musique, super. Waouh. Si tu as encore du péché dans ta vie, vous savez, dans la jeunesse, ce n'est pas facile aujourd'hui. On peut tellement vite. Moi, je connais des jeunes qui ont été liés par la pornographie, par toutes ces choses. Mais Jésus a l'autorité, la puissance pour libérer de ça. Et j'aimerais vous dire, venez à la lumière. Dans le suis-moi, il y a d'abord, viens à la lumière, viens à ma lumière. Et si tu n'arrives pas à t'en sortir tout seul, demande de l'aide. Va vers des gens de confiance, mais fais-le s'il te plaît. L'ennemi voudra te retenir. Il y aura un combat. Mais fais-le. C'est le temps pour répondre à l'appel solennel de Dieu en Jésus-Christ et d'accepter de te lever et de le suivre. Parce que Dieu veut t'équiper. Dieu, cette ville, elle est belle, elle est grande. Elle fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est bien, c'est très bien. Mais Jésus veut sauver cette ville. Il va le faire avec toi. Et tu vas être surpris. Tellement passionné de Jésus, tellement aimant avec les gens. Ils vont sentir quelque chose en toi. Et tu sauras distiller, tu sauras être cette salière. Des gens vont venir à Christ. Mais quand Jésus t'appelle, je ne suis pas en train de vous pommader ce matin. Mais c'est ça l'évangile et je le prends en plein cœur pour moi aussi. Quand Jésus nous appelle, on ne peut rien justifier. Rien. On ne peut pas faire valoir d'excuses. Tu diras, oui, mais ma famille m'a rejeté. Oui, mais Jésus aussi, il a été rejeté. J'ai été victime d'abus de toutes sortes. Mais lui aussi, il te comprend. Il veut te rejoindre. Il veut te libérer. Mais d'abord, dis-lui, Jésus, je te suis. Je veux marcher avec toi. Dans une nouveauté de vie, je colle à toi, je me connais, je connais ta parole, je veux être enseigné par ceux qui en savent plus que moi. Et vous savez quoi? Jésus va s'occuper de vous, Jésus va vous libérer. Et j'ai compris une chose dans ma vie. Suivre Jésus, c'est capituler. Une fois, j'étais en relation d'aide il y a 10 ans, parce que Jésus me poussait à bout de bout du bout. Il dit, ah mais, j'étais gérant dans une dans une coopérative agricole sur la côte. Et il y avait une femme là, mais... Non, mais je plaisante. Je dis à ma femme, je me méfie des petites dames rondes. Parce que j'ai eu affaire à deux petites dames rondes dans ma vie qui m'ont donné tous les soucis, tous les problèmes. En plus, elles se ressemblaient. C'était ma belle-maman et puis une femme très compétente là-bas à Morges. Mais elle m'a amené dans des problèmes. Bref, j'ai dû la licencier. Et moi, j'étais à bout du bout du bout, vous savez. Vous ne dormez plus, vous vous inquiétez pour vous. Puis tu cries à Dieu, puis il dit non, mais reste en place. C'était facile, Seigneur. Facile, mais facile à dire, mais... Et j'en bavais. Et un jour, Dieu m'a parlé au travers d'un silotier, tout simple, qui n'était surtout pas chrétien. Et j'ai su qu'il me parlait de la part de Dieu. Et là... L'effet domino a commencé. J'ai pu licencier cette femme et tout s'est mis en place derrière pour le bien de l'entreprise et pour mon bien. Mais j'ai dit, Seigneur, je suis trop fragile. Il y a quelque chose qui ne va encore pas dans ma vie. Et j'ai demandé de l'aide là-bas à Morges. Dieu voulait, c'est une femme qui m'a accompagné, une femme remarquable. Et un jour, j'étais là, en relation d'aide, et je lui dis, si tu veux bien, je ressens le besoin de m'agenouiller devant Jésus. Comme ça. Je ne savais pas pourquoi on est en train d'essayer de comprendre ce qui n'allait pas dans ma vie par les outils que nous donne la parole. C'est bien. J'ai dit, elle me dit, fais-le. Et je... Ah ouais. Et je... Ben, je me mets simplement à genoux. Et là, parce que j'ai capitulé. Et dit, Seigneur, je viens à genoux devant toi. Tu me le demandes, je le fais. Et là, le Saint-Esprit est venu. Il m'a touché profondément. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il y avait un avant et un après. Oh, si on pouvait apprendre à capituler devant lui, à lui être soumis. Avoir un front dur face à l'opposition. Résister au diable. Résister parfois aux méchants. Parfois, sur le plan humain, on doit résister à certaines personnes. Mais devant Jésus, dire, oh, c'est comme ça que je suis le mieux. À tes pieds. Je veux que tu grandisses, comme Jean-Baptiste. Il faut que tu croies, Jésus, c'est urgent. Moi, je veux diminuer. Crois en moi. Crois. Prends toute la place. Alléluia. Je vais terminer comme ça. Merci pour qui vous êtes. Merci pour l'invitation. Vraiment un bonheur d'être parmi vous ce matin.